Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Au Sahel, la rupture constitutionnelle est presque devenue la règle et l'alternance démocratique l'exception. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont tous connu en 3 ans des coups d'État. Depuis 30 ans, ces pays n'ont pu réussir 2 alternances démocratiques successives. Pourquoi cette instabilité institutionnelle? Les peuples du Sahel sont-ils prêts pour la démocratie? Quelle démocratie au Sahel? C'est le sujet du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur vice-doyen de la FSAP, Fodje Tandjegoura, enseignant-chercheur également sociologue, et Koumbaba, communicante genre. Ce débat sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, messieurs, bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci, chers invités, d'être là. Pourquoi les pays du Sahel peinent à instaurer la démocratie, Dr Abdoul Sogodogo?
Merci pour votre invitation. Nous remercions aussi toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment. La question de la démocratie au Sahel, effectivement, au vu de la conjoncture actuelle, mérite d'être posée parce que toutes ces ruptures démocratiques laissent croire peut-être en surface que la démocratie, elle est interrogée. Finalement, est-ce le régime qui convient le mieux à notre sous-région? Mais je suis de ceux qui croient que il y a un certain nombre de problèmes qui minent la gouvernance en Afrique de l'Ouest. Par exemple, je prends d'abord la question des ressources économiques, sur lesquelles l'État peut fonder déjà sa légitimité. Parce que ces États ont du mal à répondre aux besoins d'État. Par exemple, comment donner la chance à tout le monde d'aller à l'école? Comment permettre à tout le monde d'être soigné dans les conditions idoines? Ainsi de suite. Comment permettre à tout le monde de manger à sa faim? Donc des politiques agricoles et alimentaires. Et donc l'État peine justement à prendre en charge efficacement ces questions, ce qui fait que de plus en plus on a tendance à douter. Quand vous prenez la démocratie, en substance, c'est un régime politique qui veut que chaque citoyen puisse participer à la gouvernance. Ça veut dire que chaque citoyen puisse porter sa voix, que ce soit à travers des représentants ou pas, de telle sorte que ses besoins à lui et ses intérêts soient pris en compte. Et l'État joue un peu, à travers les institutions, une sorte de médiation pour répondre à ses besoins. Et c'est ça qui a du mal à passer. Donc, on a l'impression aujourd'hui de voir que la participation des populations à la gouvernance, n'est-ce pas, les voies par lesquelles elles devraient passer sont rouillées et ça ne passe pas. Et le fait que ça ne passe pas, ça fait que l'État, de plus en plus, s'éloigne des populations. Et cela se traduit justement par la grande corruption. Vous avez l'impression qu'il y a des groupuscules qui négocient entre eux et qu'il y a des systèmes de médiation. Et la grande majorité de la population est parfois justement laissée pour compte.
Alors Koumbaba, en plus de ces causes, notamment la malgouvernance, quelle autre cause pouvez-vous ajouter à ça?
Bonsoir tout le monde. Moi, je dirais que au-delà des problèmes de gouvernance, peut-être il faudrait même voir le modèle que nous avions voulu prendre. Parce que si...
Le modèle de démocratie.
Si nous faisons fi du système de gouvernance que nous avions peut-être au XIIIe siècle, avec l'Empire du Mandé, la Charte de Kourkanfouka, mais que nous disions que notre démocratie, elle a commencé dans les années 90-91, avec la chute des régimes militaires, on voit que ce qui est attendu de la démocratie, à savoir l'animation, la participation citoyenne, n'a jamais été vraiment cultivé chez nous. On a toujours eu beaucoup de faiblesses à faire de notre démocratie un régime du peuple souverain, ou comme ça a été dit par Franklin Roosevelt, je pense, c'est lui qui l'a dit, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc chez nous, qui est ce peuple? D'abord, au Sahel, on doit voir la démographie en termes de population, les particularités de cette population. Le fait qu'elle soit très jeune, si je ne me trompe pas, les statistiques nous parlent de 4 sur 10, 40% de notre population en moins de 15 ans. Et pourtant, chez nous, pour devenir un citoyen actif, un droit avec droit de vote et tout, tu dois attendre 18 ans. Est-ce qu'on est obligé d'attendre que ceux qui peuvent mettre frein à travers une insurrection populaire, la force énergétique de la jeunesse, quand les régimes ne collent pas à leur adéquation ou quand une politicienne décide qu'elle veut utiliser cette jeunesse-là contre un pouvoir démocratique, on a des bouleversements à cause de ça. Alors, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir? Par exemple, nous, en tant que femmes, nous savons que le code de la personne au Mali dit qu'il faudrait qu'on nous marie. On peut nous marier, l'âge minimal, c'est 16 ans, mais 15 ans avec l'autorisation du papa. Des deux parents, mais quand les deux papas, le papa et la maman ne sont pas d'accord, c'est la foi du papa qui suffit. C'est comme ça que c'est dit. Et pourtant, on ne peut pas voter chez nous jusqu'à ce qu'on a 18 ans. Je pense qu'on doit voir si l'exemple du Brésil. Je pense que le Brésil est le seul pays au monde aujourd'hui qui a abaissé le taux de l'âge du vote, si je ne me trompe pas, à 16 ans. Les pays du Sahel peuvent s'en inspirer. Parce que déjà, officiellement, notre jeunesse est en train de participer à l'animation de la vie de la cité. Qu'est-ce qui est dit dans la charte des partis politiques? Et qu'est-ce que la démocratie demande des partis politiques, partisans? C'est d'animer aujourd'hui, sur les 200 partis politiques, combien d'entre eux peuvent te montrer un programme qu'ils ont eu à mener sur les 5 ans, sur les 10 ans, ou dans seulement les 2 dernières années, par rapport à l'éducation citoyenne et civique, par rapport à l'explication et la vulgarisation des textes? Donc, notre démocratie, pendant très longtemps, n'a été animée que par une élite. Donc, peut-être on dit démocratie de nom, mais c'est vraiment une oligarchie.
D'accord.
Et le pouvoir en place a servi, comme il a si bien dit le docteur Sogodogo, a servi comment les populations, et s'est attelé à combien de problématiques des populations? La pauvreté, l'éducation, la qualité de l'éducation, la non-littératie, comme l'analphabétisme, le manque d'emploi, la migration, le changement climatique, les conflits, le terrorisme. Quel régime ou quel parti politique a mis des plans d'atténuation concrets contre ces fléaux-là? Donc, pour nous, notre démocratie n'est ni du peuple, elle ne sert pas le peuple et elle n'est certainement pas pour le peuple.
D'accord.
Donc, il y a déjà réflexion à mener à cet endroit et développer un modèle qui sied à nos réalités.
D'accord. Pour vous, c'est un problème de modèle. Fodié Tandjigoura, partagez-vous cette analyse de Koumbaba?
Oui, en fait, merci une fois de plus pour l'invitation et je salue tous les auditeurs. En fait, je pense qu'il faut reconnaître que la démocratie n'a jamais été aussi mise à mal aujourd'hui que par le passé. Ça rappelle un peu les décennies de coups d'État après les indépendances. On pense à une certaine immaturité de la démocratie. Aujourd'hui, comme par enchantement, ces mêmes coups d'État reviennent. Donc ça nous interroge sur le modèle démocratique. C'est-à-dire que pendant longtemps, nous n'avons développé que la démocratie institutionnelle. Il y a des partis politiques, il y a des urnes, il y a des élections, et donc il y a des institutions pour valider, et c'est tout. Par contre, ce qui est la pratique démocratique, le jeu démocratique qui est très faussé dans notre contexte, des bourrages, des urnes, des candidats qui sont imposés, des opérateurs économiques qui sont riches, qui s'imposent devant des partis politiques, qui se font élire, qui se couvrent d'immunité. Donc, on a trépatouillé la démocratie en tant que telle, c'est un concept, mais la pratique que nous avons faite, cette démocratie, ne peut pas aller avec nos besoins. Donc, ça nous revient aujourd'hui. Tous ces coups d'État que nous voyons, ça veut dire que ce qu'on appelle démocratie, ce n'est pas une valeur absolue dans notre contexte parce que nous avons fait un usage qui est contraire à la volonté du peuple. Comment expliquer cet engouement populaire à chaque fois qu'il y a un coup d'État? Comment expliquer, n'est-ce pas, le fait que beaucoup d'hommes politiques soient honnis par la grande majorité des jeunes et que des religieux puissent se poser comme étant des interlocuteurs privilégiés, qu'ils prennent la place même de l'opposition. Dans beaucoup de cas, vous avez vu, quand les partis politiques appellent pour remplir les stades, franchement, il n'y en a pas beaucoup, sauf si vous payez des gens pour aller dans les stades. Il suffit que des religieux fassent des appels ou de la société civile pour que les gens partent pour se mobiliser. Donc, il y a un problème lié même à l'usage que nous avons fait de la démocratie.
Mais quand vous dites que quand le peuple sort pour manifester son soutien à des militaires qui prennent le pouvoir, est-ce que ce n'est pas ce même peuple-là qui vote pour ses gouvernants sous un régime démocratique?
Ce que je vais dire...
Finalement, est-ce qu'on sait ce qu'on veut?
Non, ce que je vais dire, et le peuple dans une situation normale, devait plutôt manifester contre le coup d'État, si la démocratie le représentait en tant que tel. Donc, si on voit le peuple, au contraire, manifester en faveur de la chute d'un pouvoir, c'est que ce pouvoir n'était pas légitime, ou ce pouvoir s'est imposé d'une manière ou d'une autre, et que le vieux système a été reproduit de génération en génération, et ça a trouvé ses limites. Donc, en fait, notre cas, ce n'est même pas, je dirais que ce n'est pas une démocratie en tant que telle, mais il y a beaucoup de pratiques, hein, de tripatouage, de corruption. Donc, tous ces mots réunis ont explosé à un certain moment donné, et ça, c'est difficile de contenir, sans compter que la jeunesse est aujourd'hui biberonnée aux réseaux sociaux. L'information, ça passe très vite.
D'accord. Docteur Chougoudougou, est-ce que ces mots que vient de citer M. Tandjigoura, est-ce que ces mots ne viennent pas surtout des hommes? Est-ce qu'un système peut mettre fin à ces pratiques-là? Est-ce que ce n'est pas les hommes qui sont mis en cause?
Je dirais que c'est les deux, parce que les hommes qui pratiquent, c'est les hommes qui pensent les institutions. D'abord, le premier souci en 92, quand il y a eu la 91, quand il y a eu la chute de Moussa Traoré, qu'on a mis le multipartisme intégral pour aller vers une démocratie attendue substantielle. Qu'est-ce que la population attendait? La population s'attendait à ce que le pouvoir soit désormais largement exercé par la grande population, qu'elle soit assez partagée. On a parlé de la décentralisation, Fanga Senso. Et donc, on s'attendait à plus de participation, à une rupture avec le pouvoir exercé par un cercle, voyez-vous, entre guillemets fermé. Et donc, c'est autrement dit un élargissement. Mais dans la pratique, quand on regarde les institutions qui ont été mises en place, ce qu'on appelle classiquement les institutions démocratiques, c'est les institutions qui permettent, voilà, de faire participer la population à la gestion de la chose publique. Mais rapidement, on va se rendre compte qu'il y a une sorte de compromission entre ces institutions, déjà entre elles-mêmes, mais une perte de confiance vis-à-vis des populations. Parce que d'autres institutions non, en tout cas, guillemets, constitutionnelles de la part de l'État, par exemple ce qu'on appelle les autorités religieuses et coutumières, ne se retrouvent pas dans le cercle de pouvoir officiel. Et pourtant, comme le dit tout à l'heure mon collègue Faudier, et pourtant la population s'identifie à ces institutions-là. Et
donc, il n'y a pas une mauvaise compréhension de la démocratie
Il y a une mauvaise compréhension. Oui. Parce que la démocratie, elle renferme les libertés, mais elle ne veut pas dire de la dépendante. Et ça veut dire, maintenant, ce sont ces institutions qui devraient permettre maintenant d'ancrer cette culture de démocratie. C'est-à-dire qu'à tous les échelons, qu'il y ait la participation, que les citoyens soient traités de façon égalitaire et équitable. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ce soit au niveau des partis politiques, au niveau des syndicats, dans plusieurs institutions, ça va être, c'est-à-dire, un homme, une institution. Donc, on ne va pas favoriser l'alternance. Celui qui détient le pouvoir fait tout pour empêcher la transmission régulière par les voies prescrites de ce même pouvoir. Ceux qui détiennent une institution vont tout faire pour se servir au lieu de servir le peuple. Et donc, voyez-vous, on va voir ces deux difficultés. Donc, pourquoi je parle de compromission? Et c'est cette compromission qui va faire que la population ne va pas se reconnaître dans la gouvernance. Donc, une crise de confiance et donc de légitimité. Et donc, c'est cette crise de légitimité qui fait que qui se traduit par l'arbitraire, hein, parce qu'on va voir, le pouvoir va être utilisé de façon arbitraire. Et donc, c'est cette crise de légitimité qui va faire que dès qu'un régime s'affaiblit et qu'elle tombe, ce régime tombe, la population va applaudir, parce qu'en espérant une reconstruction de la démocratie, donc de la participation de la population désormais. Parce que c'est ce qu'on voit. Tous les coups d'État, que ce soit au Mali ou dans la sous-région, vous allez voir que ces coups d'État sont toujours faits au nom du peuple. Vous verrez le mot peuple, ou peut-être pour le redressement de la démocratie, comme on l'a vu en 2012.
Voilà. Alors Koumbaba, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'impatience dans les pays du Sahel? Nous voyons que la majeure partie de ces pays n'ont qu'une trentaine d'années de pratiques démocratiques. Mm-hmm. Mais est-ce que les gens ne sont pas impatients, puisque c'est un processus qui doit être en tout cas parfait? Mais est-ce qu'aujourd'hui, à chaque décennie, ou bien plutôt une quinzaine d'années, il y a des soulèvements, des ruptures constitutionnelles? Est-ce que nous sommes patient par rapport à ce processus-là.
Oui, je pense que nous sommes patients et patientes, mais c'est peut-être 30 ans de vie démocratique, mais c'est plus de 60 ans d'indépendance et de gestion d'un pays souverain. Donc, ça, vu le temps qu'on vit sur Terre, hein, donc je ne sais pas comment on dit ça en bon français. Donc, nous avons un taux l'espérance de vie. Donc, combien de personnes ici vivent au-delà de 60 ans? Donc, ce n'est pas de l'impatience, parce qu'on veut quand même construire un pays où il fait bon vivre, et on veut aussi léguer un bel avenir à nos enfants. Et ces institutions, ce modèle démocratique, c'est nous qui l'avons voulu. Donc, je pense que c'est normal que nous puissions être impatients, parce qu'on veut bien faire, mais ce n'est pas que dans le verbe qu'il faut se manifester. Il faut surtout se manifester dans l'action. Et si vous voyez que toutes les fois qu'il y a un changement anticonstitutionnel de régime et que nous nous réjouissons de cela, c'est parce qu'avec tout changement, on nourrit un nouvel espoir pour dire, voilà, je pense que là, ça sera la solution. Mais hélas, quand ces régimes-là aussi viennent, donc on voit 2 ans, 3 ans, l'espoir du peuple n'est pas nourri, c'est les mêmes mots qui continuent. Donc, nous devons aussi travailler sur le long terme. Des peuples qui étaient peut-être colonisés ou qui ont subi de très fortes pressions impérialistes, comment ces pays-là ont fait pour sortir de ce jeu? Donc, je pense qu'on a beaucoup d'inspiration à prendre des pays asiatiques. On a beaucoup d'inspiration à prendre de certains pays africains aussi qui sont relativement stables. On parle du Sahel. Pourquoi au Sénégal, même si ça chauffe un peu au Sénégal ces dernières années, mais qu'est-ce qui a fait la force du Sénégal? Et qu'est-ce qui a fait la faiblesse du Mali, de la Guinée, la Guinée même n'est pas dans le Sahel, mais du Tchad ou du Niger? Donc il y a des pays sur lesquels on peut s'inspirer, mais toujours est-il qu'il faut réfléchir sur comment mettre le pouvoir au service des populations.
D'accord. Est-ce que les élites n'ont pas failli, M. Tandjigoura, ces élites qui devaient, en tout cas, former, éduquer les peuples par rapport à ce processus-là, est-ce qu'elles ont joué leur rôle?
Oui, c'était la dernière partie de mon intervention précédente. En fait, il y a dans la mission des partis politiques la formation des citoyens. Et malheureusement, sur ce volet, les partis politiques ont joué peu de rôle, en réalité. C'est-à-dire que la démocratie a offert...
Est-ce qu'ils sont même conscients de ça, de ce rôle-là?
Oui, mais il y a de la subvention qui est donnée pour ça. Et oui. Certains reçoivent beaucoup de subventions pour ça. Non, ce rôle n'est pas rempli. Mais en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que la démocratie est venue... Parce que vous avez parlé de la jeunesse, je reviens sur ça. Mais on ne va pas rester dans cet argument éternel qu'on a une démocratie très jeune, etc. Mais non. En fait, ce qu'on demande, c'est la pratique. La démocratie est claire. Hein. Il faut un jeu sincère, et en passant par les urnes, etc. Mais c'est le jeu démocratique qui n'est pas sincère, en fait. Vous avez beau être une vieille démocratie, hein, tant que le jeu va rester faussé à l'intérieur, vous n'atteindrez jamais la démocratie en tant que telle. Et puis, je voudrais aussi rappeler qu'en Afrique, il y a eu de bons exemples d'hommes politiques, d'hommes d'État qui n'étaient pas des démocrates. On parle chaque fois de Thomas Sankara, ce n'était pas un homme politique, hein. On parle de Giroud, lui, ce n'était pas un homme politique. En France, De Gaulle, il n'était pas un homme politique, vous comprenez? Donc, c'est pourquoi la démocratie, je pense qu'au niveau des universités, il faut mener le débat sérieusement. Est-ce que c'est le meilleur de tous les régimes? Moi, je doute fort pour notre contexte actuel. Vous savez, je dis souvent que Hitler a été élu démocratiquement, mais la suite, je ne vous l'apprends pas, sinon il a été élu démocratiquement. Donc, la démocratie, il y a le concept, les institutions, mais il y a aussi la pratique que nous faisons au nom de la démocratie. Je pense que c'est sur ce point-là que nos élites ont failli. C'est-à-dire que toute la gabegie, les pillages, les tripatouages électoraux, le népotisme, c'est tout ceci qui a constitué un cocktail explosif, à tel point que les citoyens qui étaient à la périphérie du pouvoir, qui n'avaient accès à rien du tout, étaient aigri, était complètement à côté. Et donc, lorsqu'il y a un coup d'État qui intervient, ça répond en quelque sorte à l'aspiration d'une masse critique et qui n'avait pas accès au pouvoir et aux ressources. Certains applaudissent même s'ils n'ont rien pendant le coup d'État. Hein. Mais rien que parce qu'un système est tombé et les gens applaudissent. Donc ça doit nous interroger sur qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce que nous ne devons pas aller vers un autre système démocratique, comme les États-Unis le font par exemple. Ils ont un système de grands électeurs. Est-ce qu'on ne peut pas le faire par contrée chez nous ici, où on délègue des gens au nom de grande légitimité pour le faire.
Nous allons en venir tout de suite dans la seconde partie de cette émission quand on va parler de quelle démocratie pour nos pays du Sahel. Mais je voudrais vous faire écouter ce micro-trottoir qu'on a réalisé à Bamako ici. On a demandé à certains Bamakois pourquoi ces nombreux coups d'État et quelle démocratie pour nos pays, pourquoi la démocratie ne marche pas.
L'Afrique n'est pas prête, on ne peut pas. On demande une démocratie dans le respect de nos mœurs, de nos cultures. Tant qu'il n'y a pas ça, ce n'est pas possible.
Les politiques qui ont failli, c'est-à-dire qu'ils ont trahi le peuple, les rébellions là. Mais c'est les démocrates qui ont amené tout ça. Tout type qui vient au pouvoir dit que je viens pour le peuple. Non, il vient pour lui-même. C'est pour s'enrichir. C'est maintenant qu'on commence à voir le bout du tunnel. Moi, je veux une démocratie dans le Sahel. La démocratie va d'abord à partir des familles. Qu'on revienne sur les
C'est dû à la mauvaise gouvernance. Les jeunes pays, démocratiquement, pour que la démocratie joue son rôle, il faut du temps d'avoir.
La démocratie est devenue un moyen pour certains responsables de manger le dû des citoyens. Il faut que la corruption s'arrête et la sécurité revienne. Avec cela, la démocratie sera une réalité au Sahel.
Alors, quand on écoute ce micro-trottoir, on peut constater qu'il y a une certaine perte de confiance dans ce système même.
Effectivement.
Qu'est-ce qui peut expliquer cela, docteur Segoudou?
Effectivement, c'est le constat que nous partageons tous. Hein, d'ailleurs, même un de mes collègues, pas moins le professeur Amadou Keïta, avait même qualifié la pratique démocratique malienne d'une démocratie incantatoire. Un autre collègue a écrit « démocratie de façade ». Pour dire qu'on s'est limité à organiser des élections, mais au fond, on n'a jamais pu permettre à la population d'être le véritable détenteur de la décision politique. Ce pouvoir est resté encore assez éloigné véritablement des populations.
Mais est-ce que ce n'est pas à la population de se battre pour ça?
Effectivement,
est-ce que la population est consciente de cela?
L'ancien
président qui disait que nous ne sommes pas encore prêts pour la démocratie, est-ce que quelque part il n'a pas raison?
Je ne partage pas ce point parce que je pense que depuis la nuit des temps, les populations ont appris à se gérer. Par exemple, elle le disait tout à l'heure, Madame Traoré, que la période de mandat dont on est fier de dire, mais c'était une gestion démocratique, pas avec les mêmes modèles institutionnels. Mais les gens participaient. C'est ce qui a permis d'avoir des empires stables de des centaines d'années. Mais ce qui est en jeu, c'est une éducation démocratique. Ça veut dire qu'il faut des valeurs partagées sur lesquelles on va fonder des institutions et se fixer des lignes à ne pas franchir. C'est ce qu'on appelle les principes démocratiques maintenant, qui varient selon les réalités et les époques. C'est ce travail d'éducation qu'il faut faire pour arriver à une culture électorale et démocratique. Parce que regardez les taux de participation aux élections chez nous. Depuis les années 40, on pratique les élections et on n'est jamais, depuis 2012 jusqu'à 1992 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais atteint les 50%. Ça veut dire quel intérêt pour la population? Les grandes politiques qui sont mises en œuvre, est-ce que nos populations se reconnaissent dans ces politiques-là? Quand vous posez la question sur le modèle d'éducation au Mali, moi je suis à l'université comme Fodier, il en dira mieux que moi, est-ce que les Maliens se retrouvent dedans? Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas pensé par les Maliens. Ou même s'il est pensé, il est à repenser. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas en train de répondre aux véritables besoins de notre population. Quand vous pensez, par exemple, l'appropriation de ces institutions, les populations vous disent, j'ai eu l'occasion à travers plusieurs études de le constater, qu'une fois qu'un député est élu, c'est fini. Le cordon ombilical est coupé. Les populations ont du mal à accéder à leur élu et pour qu'ils puissent véritablement porter leur voix. Ça veut dire
Est-ce que cela ne s'explique pas aussi par le fait que le député s'est fait facilement élire en achetant des consciences avec 5000 francs?
Exactement,
2000 francs.
Parce que nous avons une démocratie libérale. Et dans la démocratie libérale, c'est par nature exclusif parce que fondé sur la liberté, mais qui derrière, il y a le capital. Quand on vous dit pour participer aux élections, il faut peut-être, voilà, législatif, il faut peut-être déjà mettre 20 millions ou 30 millions, je ne sais pas quel est le montant, ça veut dire qu'on exclut déjà un pan de la société. Alors que l'essence même de la démocratie, sa substance, c'est d'abord permettre à tout le monde de participer, de se travailler à l'équité et à l'égalité. Et donc on met tout pour qu'il y ait une égalité de chance entre les citoyens. Et ceux qui sont dans des situations naturellement défavorisées, on tient à ce qu'ils puissent effectivement jouer leur rôle de citoyen et se retrouver dans l'action collective. Et le défi reste toujours ça pour une démocratie. C'est de prendre en charge les besoins et les intérêts des minorités. Parce que le jeu de majorité, de la majorité peut exclure effectivement une minorité, qu'elle soit voilà, religieuse, ethnique, financière, etc., etc., etc. Donc il y a des défis énormes qui se posent à chaque démocratie, à tout moment, qu'il faut savoir remonter pour qu'on ait véritablement une démocratie, n'est-ce pas, qui permette à tout un chacun de pouvoir, en tout cas, garder espoir dans l'atteinte de ses propres aspirations.
Alors Koumbaba, même si vous avez un problème avec ce modèle de démocratie que nous avons, ce modèle quand même nous a permis d'avoir des acquis en termes de liberté d'expression, de liberté d'association. Et en tout cas, il y a beaucoup d'acquis, en tout cas grâce à ce modèle qu'on a pu avoir.
Oui, peut-être le modèle a permis d'avoir beaucoup, mais qu'est-ce que le modèle aurait pu donner s'il était mieux implanté. Parce que c'est comme si nous, on a pris la démocratie et on n'a pas lu le manuel de procédure. Parce que non seulement on est en train de parler de l'élection, mm-hmm. avec le taux très faible de participation du peuple aux élections, on est en train aussi de parler de la quasi-inexistence de l'animation du jeu politique à la base. Parce que la démocratie, elle doit être participative. Le citoyen et la citoyenne doivent comprendre comment les institutions fonctionnent, quels sont les textes, quelle est la séparation du pouvoir, c'est comment. Aujourd'hui, combien de Maliens, sur les 20 millions de Maliennes et Maliens que nous sommes, combien peuvent te dire, même la constitution qu'on vient de voter, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et qui était chargé de faire ça? La population, de part de l'État aussi. L'État a une obligation, les partis politiques ont une obligation. Ça a été dit. Donc, tant que nous ne faisons pas ce que le manuel de procédure de la démocratie demande, nous ne pouvons pas mettre en question le modèle. Parce que nous-mêmes, on n'est pas en train d'appliquer le modèle comme il le faut. On demande la séparation du pouvoir. Aujourd'hui, dans combien de nos pays, le pouvoir est réellement séparé? Et qui s'en plaint? Quand on demande aux populations d'interpeller, de participer même au niveau des mairies, juste au niveau local, pour animer la municipalité. Quand on fait nos réunions à la mairie, combien d'entre nous sont présents? Combien de citoyens et citoyennes qui ont plus de 18 ans n'ont jamais participé à l'élaboration d'un PDSEC? Donc on ne peut pas dire qu'on a une démocratie parce que tout ce que la démocratie demande des populations, leur engagement majoritairement, ce n'est pas fait chez nous. C'est une toute petite élite. C'est pour cela que j'ai dit, on n'a pas de démocratie, on a plutôt une oligarchie. Donc, si on doit penser au niveau universitaire ou penser au niveau de nos vestibules, parce que le débat doit revenir à la population. C'est de même dommage, nous on est en train de parler de tout ça, on le tient en français, on le tient dans les universités. Mais combien de Maliens et de Maliens sont dans les universités? Et pourtant, quand il s'agit de mettre notre démocratie à mal, c'est la majeure partie des populations qui sort pour battre le pavé. Or, cette majeure partie des populations, elle est plus de 40% analphabète. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de Maliens qui savent ni lire ni écrire que de Maliennes et Maliennes qui savent lire et écrire. Surtout au niveau de la population féminine qui est la force mobilisatrice quand on part aux élections. Nous avons un taux d'alphabétisation aujourd'hui en plein 21e siècle pour les femmes de moins de 20%. Donc si 80% âgées de femmes, âgées de 15 ans et plus, ne savent ni lire ni écrire dans aucune des langues, ça veut dire que même nos modèles de sensibilisation, nos modèles de vulgarisation de nos textes, tout cela doit être adapté à notre réalité. On ne peut pas avoir une démocratie stable, une démocratie participative, tant que nous continuerons à faire du copier-coller. Les autres peuples se sont assis, ils ont réfléchi sur la dynamique de leur population et les a servi un modèle qui les sert. Nous aussi, nous devons arrêter la paresse intellectuelle. Nous devons nous asseoir, comme ça a été fait au XIIIe siècle, avec la charte de Corcanfoucault. toujours nos grands empires, nos aïeux et nos aïeules, elles se sont assises pour décider face aux enjeux. Alors nous, qu'est-ce que l'on va faire face aux enjeux ici? Parce que c'est clair et net que le Sahel est en train d'aller de mal en pis. Parce qu'en plus du modèle démocratique qu'on veut nous servir, la réalité c'est qu'on fait face aussi à des conflits géopolitiques où c'est la crise énergétique qui est mise en balle. Et on a un chapeau ou un nuage de démocratie qu'on veut nous faire miroiter si nous ne réfléchissons pas. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On se lève nous-mêmes en train de casser notre pays et pendant qu'on casse le pays, quelqu'un d'autre va venir piller les richesses. D'accord. Donc, on a aussi une géopolitique, une géostratégie de l'intelligence collective que nous devons travailler pour que vraiment nos pays soient plus stables et que nous puissions nous-mêmes servir nos pays et laisser quelque chose pour la progéniture.
Fodjé Tandjougoura, vous aviez commencé à parler un peu de modèle démocratique.
Ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire un peu plus par rapport à ce modèle qu'on pourrait avoir, qui pourrait nous éviter ces nombreuses ruptures constitutionnelles que nous voyons dans nos pays?
Tout de suite, ça va être difficile de vous donner un nouveau modèle. Ce que je peux vous dire, c'est que notre démocratie est entrée par le toit, par les institutions. Ça rappelle un peu, je donne une référence que mon collègue Soudo connaît très bien, c'est l'État importé de Bertrand Badi. C'est quelqu'un qui traite de ça. En fait, notre démocratie est venue par les institutions, par le toit. Or, la pratique démocratique, la pratique de tous les jours, la redevabilité, en fait, nous ne l'avons pas incorporée d'abord. Donc, on est venu habiller notre corps social des institutions démocratiques. Et le jeu est faux. Je le dis, c'est le jeu démocratique qui n'est pas sincère à l'intérieur. Mmh. Et donc, tout ce que vous appelez association, vous semblez dire que pourtant, ça favorise l'émergence des associations. Mmh. Oui, après la chute du régime militaire, donc les associations ont proliféré. La société civile aussi. Mais en réalité, la société civile, qu'en est-il? Souvent, moi, je dis même qu'au Mali, ici, il y a des sociétés civiles d'État. C'est-à-dire qui ont même réussi à ça faire rire, mais qui se sont incorporés à l'État, qui vivent des subventions de l'État, qui sifflent dans la même trompette que l'État. En fait, tout notre jeu, la démocratie et les annexes qui sont associées à ça, ne correspondent pas à l'éthique même de la démocratie. Et le peuple qui n'est pas instruit, elle a parlé du niveau d'instruction. Effectivement, ce travail, on devrait le faire. Mais on n'a pas besoin que tous les Maliens savent d'abord lire et écrire. C'est ça l'idéal, en réalité. Mais on peut les sensibiliser dans les langues pour qu'ils comprennent. C'est possible. Mais si on doit attendre d'abord qu'on ait 95% d'instruction, ce n'est pas maintenant.
C'est pas maintenant.
Donc, faisons en sorte que les citoyens puissent s'approprier des enjeux et la redevabilité soit le principe de base de la gouvernance. Votre député est élu, 5 ans, il ne vient jamais faire des restitutions. Le maire, c'est la même chose, etc., etc. Donc, finalement, les gens se sont dit, bon, je paye les citoyens, comme vous l'avez dit, pour me faire élire. Je n'ai de compte à rendre à personne. Donc, autant les citoyens sont également fautifs parce qu'ils ne sont pas conscients des enjeux liés à ça. Mais la vraie question est que, est-ce qu'on va continuer dans cette voie? C'est ça la question.
Justement, dans cette voie, puisque nous constatons qu'il y a un éternel recommencement, rupture démocratique, transition, ensuite élection, ensuite coup d'État, finalement, est-ce que le problème n'est pas au niveau des populations même? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation assurer aujourd'hui?
En fait, pour moi, d'abord, le problème, c'est que ce que nous avons comme modèle démocratique, que nous pratiquons depuis plusieurs décennies, a engendré un autre type de régime, parce que qui n'est ni vraiment démocratique, qui n'est pas non plus de la dictature, parce qu'on ne peut pas le dire. Donc on a fait une sorte d'usage de la démocratie qui ne correspond à rien en réalité. Autrement dit, sous couvert du régime démocratique, de l'ouverture démocratique, ce qui est visible institutionnellement, mais on a institué à l'intérieur tout un tas de pratiques antidémocratiques. Donc c'est sur ce point-là que les citoyens pourraient réagir, parce que finalement, lorsque les gens sont écartés, n'ont aucune voie de promotion, que ce soit par l'école ou par d'autres moyens, pourtant on parle de démocratie, mais c'est une élite qui prend en otage tout l'appareil étatique et qui parle au nom d'une certaine démocratie. Donc, au final, ça trouve une limite. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rompre avec ces pratiques-là. Soit on va vers la démocratie réelle et sincère, soit on opte pour un autre régime. Je ne sais pas lequel, Donc, non, pour un autre régime.
Alors, Fogier Tandjougoura, quel autre modèle peut-on avoir? Ou bien vous pensez qu'il faut, comme l'a proposé Fogier Tandjougoura, changer de système même?
Non, si
un autre régime.
Je reconnais que la démocratie, même dans l'absolu, dans le concept, n'est pas parfait. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait une démocratie dans le monde où tout le monde dit que c'est parfait. Il n'y a plus de marge d'amélioration. Peut-être que s'il y a un pays comme ça, je ne le sais pas. Même les Grecs qui se vantent d'être la cité grecque où on a créé la démocratie, tout le monde ne passait pas. Les femmes et les jeunes enfants ne votaient pas. Donc il y avait déjà une exclusion. Ça, c'est toujours le grand risque avec le système de représentation. Mais je veux dire, je disais tout à l'heure, nous, on a le modèle de démocratie libérale. Peut-être qu'il faut qu'on pense à aller vers une démocratie populaire. Peut-être parce que compte tenu de ce que nous voyons, je dirais peut-être en français simple, peut-être sortir un peu l'argent de la politique pour permettre qu'on puisse avoir et repenser les institutions surtout. C'est-à-dire, les institutions, c'est une autre chose. Nous voulons l'égalité citoyenne, nous voulons la justice sociale, nous voulons ça. On met en place des institutions pour concrétiser cela. Et donc peut-être qu'il faut repenser nos institutions. Moi, je suis pour qu'on repense notre système de représentation. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on exclut les vraies légitimités de notre jeu politique. J'aimerais voir ces institutions reprendre la place qui leur revient. Je voudrais voir une société civile, par exemple, c'est-à-dire des individus engagés sur des causes. Je ne fais pas allusion aux organisations de la société civile qui sont parfois, pour certains, des stratégies de cooptation ou de captation de fonds. Je ne parle pas de ça. Mais par exemple, que les Maliens puissent s'organiser et dire, bon, voilà, je veux tel type d'école. Je veux que mes enfants soient formés. Je veux que l'État joue tel rôle. Et je contrôle l'action de l'État. Et je mets les moyens à la disposition de l'État pour qu'il fasse ça. Parce que les gouvernants ont besoin d'une opinion dominante pour pouvoir décider. Et c'est pour cela qu'on fait tout le temps ces forats. Chaque régime qui vient dénie, parce que le débat public ne nous permet pas de dire voilà ce qui est demandé clairement par les Maliens. Je pense aussi qu'il faut peut-être renforcer le pouvoir économique de l'État. Parce que c'est ce pouvoir qui permet à l'État de se légitimer parce qu'il répond clairement aux besoins de développement des populations. Mais malheureusement, le niveau de fragilité économique et financière de nos pays fait que c'est finalement les institutions internationales de développement telles que FMI, Bayer, 30 ans, qui donnent des miettes à ces États et les États ont tendance même à prévoir, à organiser les stratégies de développement sur la base de ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Et donc, ça fragilise l'État dans sa légitimité et sa tendance à donner un poids plus important et une influence plus importante à ces institutions sur véritablement le choix et l'avenir de ces États-là.
Mais est-ce que tout cela ne demande pas du temps, toutes ces propositions pour que les
On n'a pas besoin de temps véritablement pour repenser notre gouvernance, pour repenser nos institutions. C'est à un peuple, à tout moment, de prendre conscience et de dire, comment j'implique les gens dans telle chose ? Et de discuter avec sa population pour les impliquer véritablement. Comment je décide demain de me donner les moyens pour accomplir telle politique. Mais si un peuple est convaincu qu'il faut contribuer pour avoir une armée plus forte, pour avoir une école, n'est-ce pas, plus meilleure, pour avoir un système de sécurité alimentaire plus adapté, les populations vont contribuer tant qu'ils comprennent les enjeux. Je ne suis pas sûr si on fait une étude. Est-ce qu'il y a une corrélation forte entre le niveau d'éducation et le niveau de compréhension de la vie de la nation? Je ne pense pas. Parce que ce n'est pas une question d'aller à l'école, en fait. C'est à l'État, c'est aux différents acteurs de première ligne de rendre accessibles les savoirs qu'il faut, les connaissances, et de permettre au peuple de comprendre les enjeux de la nation. On l'a vu dernièrement sous la crise, après le redressement de la transition, beaucoup d'acteurs se sont investis pour permettre aux Maliens de comprendre les enjeux géopolitiques. Et dans mon quartier, je vois tous les jeunes garçons qui sont devenus des experts en géopolitique. Ça veut dire qu'il y a un effort que les acteurs ont bien voulu faire là.
D'accord.
Moi, j'attends les mêmes efforts de la part des partis politiques et des différentes organisations de la société civile pour permettre aux populations de pouvoir jouer effectivement leur rôle de citoyen, de participation à la vie de la nation.
Alors, une dernière question, tour de table. Nous n'avons que 4 minutes, Koumbaba. Mm-hmm. Que faut-il faire aujourd'hui pour que ce risque qui pèse sur nos pays, nous sommes tous sous transition actuellement, comment éviter ce risque de voir encore un régime démocratique se remettre en place, s'éloigner quoi.
Bon, je pense que déjà pour nous, en tout cas au Mali, le processus de construction d'un nouveau type de Maliennes et de Maliens à travers un nouveau pays, le Malikoura, est déjà lancé. Parce que on est sur la voie avec le cadre stratégique déjà, mm-hmm. des recommandations des Assises nationales de la Refondation, mm-hmm. donc où des actions prioritaires ont été prises sur 2 ans.
Mais avec un processus enclenché.
Avec un processus enclenché sur 10 ans. Mm-hmm. Peut-être tout le monde ne va pas travailler pendant les 10 ans, mais déjà, il y a un plan d'action sur 10 ans qui est mise en place. Si on le fait bien, beaucoup de ces choses qu'on a discutées aujourd'hui mmh. vont être vraiment prises en compte. Mmh. Moi, je n'ai jamais dit que l'éducation allait garantir la démocratie. Mais la non-implication du peuple et adapter la communication, l'instruction, l'éducation et la formation citoyenne doit être de mise. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire du copier-coller, continuer à tout dire dans une langue étrangère, à tout laisser. Dans les textes, on va te dire, nul n'est censé ignorer la loi. Mais si la loi est seulement dans un tiroir et le peuple n'a jamais été, on ne peut pas mettre toute sa population en prison. Donc pour moi, il faudrait que nous soyons toutes et tous convaincus que la démocratie n'est pas une substitution au travail et à la rigueur.
D'accord.
Ce n'est pas une réponse mm-hmm. toute faite. Nous devons toujours sauvegarder nos valeurs.
Oui.
Nous devons travailler. Nous devons nous former.
Oui.
Nous devons avoir une bonne moralité et surtout aimer notre pays.
D'accord. Fodjé Tandjougoura, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui?
Bon, rapidement, moi, je pense qu'il faut aller vers les formes de souveraineté. Pour avoir un régime démocratique qui réponde à nos aspirations, il faudrait d'abord que nous soyons souverains, réduire la dépendance.
Nous ne le sommes pas encore.
On doit travailler à la souveraineté alimentaire, économique, tout ce que vous connaissez, pour pouvoir réduire cette dépendance vis-à-vis des modèles qui sont importés. Parce que même si nous avons notre modèle et que nous n'avons pas les moyens de le mettre en œuvre, de le rendre compétitif, il va de soi que le modèle ne puisse pas prospérer.
Oui.
Donc travaillons et le reste va se parfaire au fur et à mesure.
Ok, Sogodogo, on termine par vous en 2 mots.
Avoir le courage de se remettre en cause et rebâtir un peuple, une nation où les gens vont être sûr, véritablement avoir des chances de d'atteindre les véritables aspirations.
Ok, et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la démocratie au Sahel. Quelle démocratie au Sahel? Nos invités étaient Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur et vice-doyen de la EPSAP, Fodjé Tandjougoura, enseignant-chercheur et sociologue, Koumba Ba, communicante genre. Ce grand dialogue a été réalisé par Mariam Koulibaly. Aux opérations techniques, il y avait Salim Diouara et Ibrahim Sanogo. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un autre numéro.